les podcasts de Radio Vatican.
C'est la première visite d'un évêque français à Alep depuis la fin des combats, il y a 10 mois. Monseigneur Éric Aumônier, évêque de Versailles, s'y est rendu du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017, accompagné d'une délégation d'aide à l'Église en détresse. Alep, deuxième ville syrienne, porte encore les lourds stigmates d'une guerre de 5 ans, une guerre qui a presque détruit la partie est de la ville, longtemps le bastion des insurgés, et endommagé aussi l'ouest. Monseigneur Aumônier était venu en particulier rencontrer les carmélites d'Alep pour les remercier d'avoir prié pour son diocèse lors de l'année dédiée à Saint-Louis en 2014. Un lien spirituel entre Alep et Versailles toujours très fort. Olivier Bonnel l'a interrogé sur cette visite qui l'a particulièrement impressionné.
On voit que Alep Est a été complètement détruit. On ne voit que des carcasses d'immeubles, des ruines sur un paysage terrible. Et on a du côté de l'ouest, ça a été bombardé, mais c'est resté debout. On voit bien que des quartiers ont pu être sauvés. Et donc, la vie semble reprendre doucement dans des quartiers d'Alep ouest, notamment, c'est là où j'ai été reçu chez les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, et non loin de là, il y a le Carmel d'Alep que j'allais visiter, et puis j'ai visité avec Monseigneur Jean Barre le quartier où la plupart des chrétiens habitaient et où demeurent encore quelques familles. Voilà ce que j'ai pu voir sur la route de Damas à Alep. Elle est fréquentable et elle est carrossable sur 500 km de Damas à Alep. On voit que l'électricité fonctionne, mais évidemment autour ce sont des villages désolés, il n'y a plus personne. On ne voit que l'armée ou des milices aux checkpoints. Et puis tout autour, bien sûr, un spectacle de guerre. Des voitures, des chars, des carcasses de camions. Et puis on devine ce qui a pu se passer. Les villages ont été abandonnés. Et puis il y a eu des massacres. Quelquefois, des villages entiers complètement massacrés. Donc c'est assez bouleversant de voir cela. Nous qui vivons en paix, on n'a pas l'habitude et on ne peut pas avoir l'habitude de ce genre de choses.
Alors vous avez rencontré des Alépins qui ont été particulièrement courageux durant ces années de siège. Que vous ont-ils dit? Quelles paroles un peu avez-vous retenu?
Ce que j'ai retenu, c'est surtout non seulement la dignité de ces personnes, mais aussi les grandes souffrances qui sont les leurs, et notamment des femmes et des enfants, puisque la plupart des hommes, ceux qui n'ont pas fui et ne sont pas exilés, je parle notamment de tous les cadres qui sont partis, demeurent les femmes dont le mari soit a été tué, soit est enrôlé dans l'armée. Il n'y a plus d'hommes en âge, si vous voulez, de travailler. On a surtout affaire, d'une part, aux femmes et aux enfants, et puis aux militaires ou aux milices. Donc, la chose très difficile pour ces femmes, avec leurs enfants, c'est après ces 5 ans de guerre où ils ont cherché tout simplement à survivre et à vivre, à sauver leur vie. Un moment où actuellement, bon, il faut réapprendre à vivre avec des moyens de vie qui sont ceux de l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire il faut trouver de l'eau, il faut trouver des vêtements, comment suivre l'école, comment pouvoir parler de ce qu'on a vécu, qui sont véritablement des deuils considérables, avec des souffrances qui n'ont pas pu être dites. Donc là, il y a tout un travail qui se fait. Je crois que Mgr Aodo et puis les religieuses que j'ai vues notamment, font tout un travail pour aider ces personnes à parler, à libérer finalement une parole qui était impossible de dire pendant tant d'années de guerre. Il y a des souffrances très très grandes.
Vous avez évoqué Alep Est complètement détruite, Alep Ouest également bombardée mais plus préservée. Est-ce que vous avez senti que l'unité des Alépins aujourd'hui est entamée? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'il y a des signes, des ferments de réconciliation?
Non, je suis resté trop peu de temps pour voir cela, si vous voulez. Ce que je vois, c'est un grand défi, notamment qu'est-ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire est-ce que c'est un gigantesque pays, ce sont des espaces très très grands, comment un tel pays peut-il reprendre vie si les populations ne sont plus là, et donc je parle de tous ces millions de réfugiés, il y a des millions de réfugiés dont plus d'un million et demi actuellement au Liban, vont-ils pouvoir ou non revenir? Ce qui serait très beau, c'est que des cadres puissent revenir. Lorsque je suis arrivé à Damas, accueilli par le cardinal Zenari le nonce apostolique, bien, c'était sa grande inquiétude, c'était de savoir comment des personnes sont parties, vont-elles jamais pouvoir revenir, et puis le désir aussi de restaurer tout le circuit sanitaire. Il y a notamment un grand effort qui est fait pour que 3 hôpitaux, 2 à Damas et 1 à Alep, puissent se reconstruire.
Vous avez parlé des religieuses, vous avez donc rencontré les franciscaines et les carmélites d'Alep. Vous aviez noué un lien très fort avec ces carmélites, un lien spirituel, un lien de prière. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur l'importance de ce lien dans ces moments difficiles?
Ce que j'ai voulu, si vous voulez, c'est simplement, c'est très modeste, mais ne pas simplement envoyer des mails ou envoyer des lettres qui attestent de ce lien spirituel dans la prière, mais tout simplement y aller moi-même, faire visite, une sorte de petite visitation, si vous voulez. Et je pense que c'est important, quand on peut le faire, de le faire. C'est un signe de, voilà, fraternel qui me paraît important.
Les Alépins que vous avez pu rencontrer durant ce court séjour, que ce soit des religieux ou sans doute des laïcs, que vous ont-ils dit? Est-ce qu'ils attendent quelque chose d'abord de l'Église et de la communauté internationale?
On n'est pas rentré dans des grandes considérations. Moi, ce qu'ils demandent toujours, c'est bien sûr de la prière, bien sûr l'aide matérielle, mais je vous ai dit, la grande dignité fait qu'ils ne vont pas d'abord parler de l'aide matérielle, mais de ne pas être oubliés. Je crois que c'est la chose la plus importante, parce que nous avons, nous tous, une grande responsabilité pour la paix dans le monde, y compris en Syrie. Et donc, notre responsabilité est grande pour chercher à rétablir la paix et les conditions de la paix. Car on sent bien que, bien sûr, là, on a affaire à des victimes de conflits qui les dépassent complètement. Donc, on ne peut pas avoir de grandes conversations avec les populations locales qui purement et simplement souffrent et demandent de l'aide.
Vous avez dit qu'on ressort renforcé dans notre propre foi d'une telle visite. Dans quel sens?
Dans le sens où, vous savez, quand vous voyez des carmélites qui vous parlent et racontant leur vie, mais plutôt plus exactement vous demandant de vos nouvelles, et puis ont un grand sourire en nous parlant de leur vie de prière, de leur vie de communauté, et même si elles vivent dans une situation extraordinairement tendue, cette joie qui émane de personnes qui croient et qui croient au Christ ressuscité, bien ça nous, c'est parce que le Christ ressuscité vit en elles que cette joie émane d'elles. Et ça, que ce qu'on soit en paix ou qu'on soit en guerre, on voit bien que le Seigneur est présent, qu'il maintient dans la vie, et la vie spirituelle, la vie éternelle des hommes et des femmes. C'est magnifique de voir ça. Donc nous-mêmes qui sommes dans des conditions de vie matérielle très faciles, qui nous plaignons de beaucoup de choses et qui pensons à notre niveau de vie et qui avons tendance à regarder un petit peu la réalité uniquement à partir de nos habitudes de confort, mais ça nous remet droit face à l'essentiel, vous voyez, face à la vie finalement, face au Christ ressuscité.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.